Jacques Lacan. Séminaire, l'insu que c'est de l'une bévue, celle amour. Le 19 avril 1977.
Tout de même, pardon. J'ai un petit inconvénient aujourd'hui. Mal au dos. De sorte que ça ne m'aide pas à tenir debout. Mais quand je suis assis, j'ai aussi mal. Ce n'est certainement pas une raison. Parce qu'on ne sait pas ce qui est intentionnel pour qu'on élucubre. Le moi, puisqu'on appelle ça comme ça, on appelle ça comme ça dans la seconde topique de Freud, le moi est supposé avoir des intentions. Ceci du fait qu'on lui attribue ce qu'il jaspine. On appelle son dire. Il dit en effet. Il dit impérativement. C'est tout au moins comme ça. À s'exprimer. L'impératif, c'est ce que j'ai appuyé, disons, du signifiant indice. J'ai dit que insignifiant c'était ce qui représentait le sujet pour un autre signifiant. De l'impératif, c'est celui qui écoute qui, de ce fait, devient sujet. n'est pas que celui qui profère ne devienne pas lui aussi sujet ainsi d'attention. Oui. Je voudrais attirer l'attention sur quelque chose. Il n'y a en psychanalyse que des « je voudrais ». Je suis évidemment un psychanalyste qui a un peu trop de bouteilles. Mais c'est vrai que le psychanalyste, au point où j'en suis arrivé, dépend de la lecture qu'il fait de son analysant, de ce que son analysant lui dit. En propre terme. Est-ce que vous entendez? Parce qu'après tout, je ne suis pas sûr que ce porte-voix fonctionne. Est-ce que ça fonctionne là dans les... Hein? Oui? Bon. Que son analysant croit lui dire, ceci veut dire que tout ce que l'analyste écoute ne peut être pris. Comment s'exprime ? De la lettre. Là, il faut que je fasse une parenthèse. J'ai dit la tendance que cette lettre, dont ce pied indique l'accrochage au sol, ce qui est une métaphore, piètre, ce qui va bien avec pied. La tendance que cette lettre a à rejoindre le réel c'est son affaire. Le réel, dans ma notation, étant ce qui est impossible à rejoindre. Ce que son analysant, l'analyste en question, croit lui dire, n'a rien à faire et ça, Freud s'en est aperçu n'a rien à faire avec la vérité. Néanmoins, il faut bien penser croire. C'est déjà quelque chose qui existe. Il dit ce qu'il croit vrai. Ce que l'analyste sait, c'est qu'il ne parle qu'à côté du vrai. Parce que le vrai, l'ignore. Freud, là, délire. Juste ce qu'il faut. Car il s'imagine que le vrai, c'est ce qu'il appelle, lui, le noyau traumatique. C'est comme ça qu'il s'exprime formellement. À savoir que, à mesure que le sujet énonce quelque chose de plus près de son noyau traumatique, ce soi-disant noyau, qui n'a pas d'existence, il n'y a que la roulure que l'analysant est tout comme son analyste, c'est-à-dire, comme je l'ai fait remarquer, en invoquant mon petit-fils, l'apprentissage qu'il a subi d'une langue, entre autres, qui est pour lui la langue que j'écris, on le sait, en un seul mot, dans l'espoir de ferrer, elle, la langue. Ce qui équivoque avec faire réel. La langue, quelle qu'elle soit, est une obscénité. Ce que Freud désigne de, pardonnez-moi ici l'équivoque, l'ombre saine, c'est aussi bien ce qu'il appelle l'autre scène, celle que le langage occupe de ce qu'on appelle sa structure, structure élémentaire qui se résume à celle de la parenté. Je vous signale que il y a des sociologues qui ont énoncé sous le patronage d'un nommé Robert Needham, N-E-D-H-A-M, qui n'est pas le Needham qui s'est occupé avec tellement de soin de la science chinoise, qui est un autre Needham. Le Needham de la science chinoise ne s'appelle pas Robert. Lui, le Needham en question, s'imagine faire mieux que les autres, en faisant la remarque d'ailleurs juste, que la parenté est à mettre en question, c'est-à-dire qu'elle comporte dans les faits autre chose, une plus grande variété, une plus grande diversité que ce que, il faut bien dire, c'est à ça qu'il se réfère, que ce que les analysants en disent. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que les analysants, eux, ne parlent que de ça. De sorte que la remarque, incontestablement, que la parenté a des valeurs différentes dans les différentes cultures, n'empêche pas que le ressassage par les analysants de leur relation à leurs parents, d'ailleurs, il faut le dire, proche, est un fait. C'est un fait que l'analyste a à supporter. Il n'y a aucun exemple que un analysant note la spécificité la particularité qui différencie d'autres analysants son rapport à ses parents plus ou moins immédiate. Le fait qu'il ne parle que ça, est en quelque sorte quelque chose qui bouche toutes les nuances de sa relation spécifique. De sorte que la parenté en question, c'est un livre paru au seuil, que la parenté en question met en valeur ce fait primordial que c'est de la langue qu'il s'agit. Ça n'a pas du tout les mêmes conséquences
ne parle que de ça parce que ses proches parents lui ont appris la langue. Il ne différencie pas ce qui spécifie sa relation à lui avec ses proches parents. Il faudrait là s'apercevoir que ce que j'appellerais dans cette occasion la fonction de vérité est en quelque sorte amortie. Par quelque chose de prévalent. Il faudra dire que la culture l'a tamponné, amorti, et que à cette occasion on ferait mieux peut-être d'évoquer la métaphore, puisque culture est aussi une métaphore, la métaphore de la grille du même nom, ça. Il faudrait substituer à la grille en question le terme de voyant de culture. Mieux enfin, d'appeler culture un bouillon de langage. Associer librement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense cela de pousser les choses un petit peu plus loin. Qu'est-ce que veut dire associer librement? Est-ce que c'est une garantie? Ça semble quand même être une garantie. Sujet qui énonce va dire des choses qui ont un peu plus de valeur mais enfin chacun sait que ratiocination, ce qu'on appelle comme ça psychanalyse, la ratiocination a plus de poids que le raisonnement. Qu'est-ce qu'a à faire qu'on appelle des énoncés avec une proposition vraie. Il faudrait tâcher, comme les Ingenious Freud.
De voir sur quoi est fondée
quelque chose
qui ne fonctionne qu'à l'usine. Dont est supposée la vérité.
Il faudrait
voir
s'ouvrir à la dimension de la vérité comme variable, c'est-à-dire de ce que
en condensant
les deux mots, j'appellerais
la vérité
avec un petit T
avalé, la variété.
Par exemple, je vais donner
quelque chose qui
a bien son prix. Ici, un sujet analysant glisse. Dans son discours,
un néologiste, comme je viens d'en faire, par exemple, à propos de la parité,
qu'on peut dire
de ce néologisme.
Il y a quand même quelque chose qu'on peut en dire. C'est que le néologisme apparaît quand ça s'écrit.
Mais c'est justement
bien en quoi
ça ne veut pas dire
comme ça automatiquement que ce soit le réel.
C'est pas parce que ça s'écrit
que ça donne.
Ce que j'évoquais tout à l'heure
à propos de
l'au pied de la lettre.
Bref, il faut quand même soulever la question de savoir si la psychanalyse n'est pas
ce qu'on peut appeler
un autisme à deux. Il y a quand même
une chose
you permet de forcer cet autisme. C'est justement que la langue est une affaire commune. Que c'est justement là où je suis, c'est-à-dire capable de me faire entendre de tout le monde ici, c'est là ce qui est garant. C'est bien pour ça que j'ai mis à l'ordre du jour transmission de la psychanalyse. C'est bien ce qui est le garant que la psychanalyse ne boit pas irréductiblement de ce que j'ai appelé tout à l'heure autisme à deux. C'est elle qui a inventé ça. Il n'y a pas la moindre ruse de la raison. Il n'y a rien de constant, contrairement à ce que Freud a énoncé quelque part, que la voix de la raison était basse. Qu'elle répète toujours la même chose. Elle ne répète des choses qu'à tourner en rond. Pour dire les choses, la raison répète le symptôme. Et le fait que aujourd'hui je la présentais devant vous avec ce qu'on appelle un symptôme physique, n'empêche pas qu'à juste titre, vous pouvez vous demander si ça n'est pas intentionnel. Si par exemple je n'ai pas abondé dans une telle connerie de comportement, que mon symptôme, tout physique qu'il soit, soit quand même quelque chose qui soit par moi voulu. Il n'y a aucune raison de s'arrêter dans cette extension du symptôme. Puisque c'est quelque chose de suspect qu'on le veuille ou non. Pourquoi un dôme ne serait-il pas intentionnel? C'est un fait que les langues j'écris ça E-L-A-N-G-E que les langues se longent à se traduire l'une dans l'autre mais que le seul savoir reste le savoir des langues. La parenté ne se traduit pas, en fait, mais elle n'a de commun que ceci, que les analyses ne parle que de ça. C'est même au point que ce que j'appelle dans l'occasion un vieil analyste en est fatigué. Pourquoi est-ce que Freud n'introduit pas quelque chose qu'il appellerait le lui. Quand j'ai écrit mon petit machin là pour vous, Jaspinet, j'ai fait un lapsus. Un plus. Au lieu d'écrire comme moi, ce comme moi n'était pas spécialement bienveillant, il s'agissait de ce que j'appellerais la débilité mentale. Un lapsus, j'ai à la place du comme moi écrit comme ça. Écrire, puisque tout ça s'écrit. Là, ce qui constitue dire, écrire que l'analysant se débrouille avec moi, c'est aussi bien moi avec lui. Que l'analyse ne parle que du moi et du ça, jamais du lui, c'est quand même très frappant. Lui, pourtant, est un terme qui s'imposerait. Et si Freud dédaigne d'en faire état, c'est bien, il faut le dire, il est égocentrique et même super égocentrique. C'est de ça qu'il est malade. Il a tous les vices du maître. Il ne comprend rien à rien. Car le seul maître, il faut bien le dire, c'est la conscience. Et ce qu'il dit de l'inconscient n'est qu'embrouille et bafouillage. C'est-à-dire retourne à ce mélange de dessins grossiers et de métaphysique qui ne vont pas l'un sans l'autre. Tout peintre est avant tout un métaphysique. Un métaphysicien qui l'est en ceci qu'il fait des dessins grossiers. D'où les titres qu'il donne à ses tableaux. Même l'art abstrait se titrise comme les autres. Je n'ai pas voulu dire titularise parce que ça voudrait rien dire. Même l'art abstrait a des titres qui s'efforcent de faire aussi vite qu'il peut, mais quand même. Ça se titrise. Sans cela, Freud a tiré les conséquences de ce qu'il dit lui-même. Que l'analysant ne connaît pas sa vérité puisqu'il ne peut la dire. Ce que j'ai défini comme ne cessant pas de s'écrire, à savoir le symptôme, y est un obstacle. J'y reviens, ce que l'analysant dit. En attendant de se vérifier, ce n'est pas la vérité, c'est la vérité du symptôme. Il faut accepter les conditions du mental, au premier rang desquelles est la débilité. Qui veut dire l'impossibilité de tenir un discours contre quoi il n'y a pas d'objection, mentale précisément. Le mental, c'est le discours. On fait de son mieux. Il y a des lésions du corps que nous causons, le corps dit vivant qui suspendent la mémoire ou tout au moins ne permettent pas de compter sur les traces qu'on lui attribue quand il s'agit de la mémoire du discours. Faut soulever ces objections à la pratique de la psychanalyse. Freud était un débile mental, comme tout le monde, et comme moi-même à l'occasion en particulier. En outre névrosé, un obsédé de la sexualité, comme on l'a dit. On ne voit pas pourquoi ne serait pas aussi valable l'obsession de la sexualité qu'une autre, puisque pour l'espèce humaine, la sexualité est obsédante à juste titre. Elle est en effet anormale, au sens que j'ai défini, il n'y a pas de rapport sexuel. Freud, c'est-à-dire un camp, a eu le mérite de s'apercevoir que la névrose n'était pas structurellement obsessionnelle, qu'elle était hystérique dans son fond, c'est-à-dire liée au fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Il y a des personnes que ça dégoûte. C'est quand même un signe positif. Que ça les fait venir. Le rapport sexuel, il faut le reconstituer par un discours. C'est-à-dire quelque chose qui a une toute autre finalité. Ce à quoi le discours sert d'abord, il sert à ordonner. J'entends apporter le commandement. Que je me permets d'appeler intention du discours. Puisque il en reste de l'impératif dans toute intention. Tout discours a un effet de suggestion. Il est hypnotique. La contamination du discours par le sommeil vaudrait d'être mise en relief. Avant d'être mise en valeur par ce qu'on appelle l'expérience intentionnelle, soit prise comme un commandement imposé au fait. Un discours est toujours en dormant, sauf quand on ne le comprend pas. Alors, il réveille. Les animaux de laboratoire sont lésés, non pas parce qu'on leur fait plus ou moins mal, ils sont réveillés parfaitement parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur veut.
même si on stimule leur prétendu instinct. Quand vous faites bouger des rats dans une petite boîte, vous stimulez son instinct alimentaire. Comment s'exprime ? C'est de la faim, tout simplement, qu'il s'agit. Bref, le réveil, c'est le réel sous son aspect de l'impossible. Qui ne s'écrit qu'à force ou par force, la nature, comme toute notion qui nous vient à l'esprit, est une notion excessivement vague. À vrai dire, la contre-nature est plus claire que le naturel. Les pré-socratiques, comme on appelle ça, avaient un penchant au contre-nature. C'est tous qui méritent qu'on leur attribue la culture. Il fallait qu'il soit doué pour forcer un peu le discours. Le dire impératif dont nous avons vu qu'il endort. La vérité réveille-t-elle ou endort-elle? Poésie dite endort. Et j'en profite pour montrer le truc qu'a cogité François Chen. S'appelle en réalité Chien. J'ai vu François comme ça, histoire de se résorber dans notre culture, ce qui n'a pas empêché de maintenir très ferme ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est l'écriture poétique chinoise. C'est paru au Seuil, j'aimerais bien que vous en preniez de la graine. Vous en preniez de la graine si vous êtes psychanalyste, ce qui n'est pas le cas de tout le monde ici. Si vous êtes psychanalyste, vous verrez que c'est le forçat par où un psychanalyste peut faire sonner autre chose que le sens. Car le sens, c'est ce qui résonne à l'aide du signifiant. Mais ce qui résonne, ça va pas loin. C'est plutôt mou. Le sens, ça tamponne. Mais à l'aide de ce qu'on appelle l'écriture poétique, vous pouvez avoir la dimension de ce que pourrait être l'interprétation analytique. C'est tout à fait certain que l'écriture n'est pas ce par quoi la poésie la résonance.
par l'écriture poétique chinoise. Mais peut-être y sentirez-vous quelque chose. Quelque chose qui soit autre que ce qui fait que les poètes chinois ne peuvent pas faire autrement que d'écrire. Il y a quelque chose qui donne le sentiment qu'ils n'en sont pas réduits là. C'est qu'ils chantonnent. C'est qu'ils modulent. C'est qu'il y a ce que François Chêne a énoncé devant moi, à savoir un contrepoint tonique, une modulation qui fait que ça chante. Car de la tonalité à la modulation, il y a un glissement. Que vous soyez inspiré éventuellement par quelque chose de l'ordre de la poésie pour intervenir, c'est bien en quoi, je dirais, vers quoi il faut vous tourner. Parce que la linguistique, c'est quand même une science que je dirais très mal orienté. Si la linguistique Jacobson aborde franchement les questions de poétique. métaphore et la métonymie. Nom de portée pour l'interprétation qu'en temps qu'elles sont capables de faire fonctionner. Autre chose et cette autre chose dont elles font fonction c'est bien ce par quoi étroitement le son et le sens. C'est pour autant qu'une interprétation juste éteint un symptôme de la vérité. Ce du côté de la logique articulée, quoique à l'occasion j'y glisse. La logique articulée qu'il faut sentir la portée de notre dire, non pas bien sûr qu'il y ait quelque part quelque chose qui mérite de faire deux versants que toujours nous énonçons parce que c'est la loi du discours. Ce que toujours nous énonçons comme système d'opposition. Là. même qu'il nous faudrait surmonter. Et la première chose serait d'éteindre la notion de beau. Nous n'avons rien à dire de beau. C'est une autre résonance qu'il s'agit à fonder sur le mot d'esprit. Un mot d'esprit n'est pas beau. Il ne se tient que d'une équivoque. Ou comme le dit Freud, d'une économie. Rien de plus ambigu que cette notion d'économie. Mais tout de même, l'économie fonde la valeur une pratique sans valeur. Voilà ce qu'il s'agirait pour nous